France Musique.
Merci Nicolas Lafitte, bon week-end à vous, on vous retrouve lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Musique pour un nouvel épisode de notre émission Fabrication Maison qui vous entraîne dans les coulisses de la maison de la radio. Ce matin, nous dessinerons le portrait du pianiste et chef d'orchestre Christian Zacharias qui dirige cette semaine l'Orchestre National de France, puis nous irons en studio assister à l'enregistrement d'une fiction radiophonique. Puis nous nous retrouverons à 8h20 avec Marie Fauché pour sa chronique, à 8h30 avec Jean-Yves Patte et le fabuleux monde des archives, à 8h45, la lettre d'un auditeur, et à 8h50, notre feuilleton Question de cœur avec Sophie Janin. Ça vous va ? Alors, Fabrication Maison, c'est tout de suite.
France Musique.
Bonjour Christian Zacharias.
Bonjour.
Alors Christian, vous êtes ici à Radio France toute cette semaine car vous dirigez deux concerts depuis votre piano à la tête de l'Orchestre National de France, donc deux programmes différents mais un peu semblables, Beethoven-Schubert.
Oui, oui, le début c'était un programme avec le troisième concert de Beethoven et la musique de scène de Rosamonde de Schubert. Et comme il y a cette série dimanche, disons une heure de musique, on m'a demandé de refaire une partie, c'est-à-dire le concerto, avec un autre Schubert, la inachevée. Et ça sera le concert de dimanche sans entracte.
Alors, vous êtes plutôt pianiste ou plutôt chef d'orchestre, Christian?
Oui, alors, quant au travail, je suis assez chef d'orchestre parce que là, je suis au piano pour le Beethoven, mais le Schubert, ça dure 55 minutes. C'est une œuvre assez importante, mais très rarement faite. Il y a un chœur, il y a une soliste qui chante, bon, c'est seulement une romance, mais là, il y a vraiment du travail à faire. Et comme j'ai fait depuis longtemps maintenant, le travail de chef a pris une importance
de plus en plus grande.
Oui, de plus en plus, oui.
Alors, on profite de votre séjour, Christian Zacharias, pour ce matin dresser un portrait bien incomplet, bien sûr, en musique. Et avec vous, c'est vrai qu'on est toujours un peu surpris.
When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? By the fireside, Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear.
We shall scream
and say,
Merci Christian Zacharias pour ce moment absolument rafraîchissant dès le matin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous faire écouter ce When I'm 64 des Beatles?
Parce que c'est d'ailleurs le moment.
Oui, d'accord. Alors, okay,
je me rappelle l'année passée, j'étais à Hambourg, j'ai dirigé un orchestre très important de l'Allemagne et j'étais vraiment assez frustré. Parfois, ça arrive que le message n'arrive pas, vous travaillez et ça sert pas à beaucoup, mais disons, et c'était aussi un orchestre d'opéra, c'est ce qui veut dire, on travaille seulement le matin, le soir, ils jouent l'opéra, alors on a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc., les répétitions, et c'était juste avant mon 64e anniversaire. Et là, j'ai écouté ça un peu comme consolation, mais aussi comme, d'ailleurs, quand j'ai eu mes 15-16 ans, quand Paul McCartney a écrit ça, j'ai même pas connu les Beatles. J'étais vraiment concerné sur la musique classique.
Ah, oui, oui.
Moi, je suis classique, je fais du piano. Et maintenant, ça revient et c'était classique. Et la poésie est géniale. Et aussi cette philosophie, c'est un jeune type qui dit « When I'm 64 ». Alors, il pense au moment...
Il projette
et il sait exactement ce que c'est. Peut-être il a regardé son père, mais c'est quand même « many years from now ». Et moi, bien sûr, cette année, je me suis dit... C'est fini les many years from now. Maintenant, c'est maintenant, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, c'est maintenant pour 64, mais on peut aller jusqu'à 84.
Non, bien sûr, notre profession, heureusement, invite à continuer. Même si on prend la retraite, on va certainement essayer de continuer. Et j'en connais pas mal. Et dernièrement, j'ai rencontré un ami comme Neville Marriner, qui a maintenant 91. Et il est frais comme toujours. Et bien sûr, il dirige.
Oui, je crois que j'aurais dû faire chef d'orchestre moi aussi, parce que j'ai l'impression que ça conserve, non?
Oui.
Possiblement. Votre deuxième choix, Christian Zacharias, est aussi assez surprenant.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France.
celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Alors là, Christian Zagaria, ça n'est pas du tout le même esprit que les Beatles. Après le côté prime sautier ironique des Anglais, là, on est dans quelque chose de plus lourd.
Oui, oui.
C'est Jean Ferrat.
Mais, oui, oui. Et, mais aussi cette contradiction, ce luxe d'orchestration.
Énorme.
Vous avez tout de suite dit, oh, mais ça, c'est un peu... Quel est le mot en français qu'on dit pour cette genre de musique, comme elle est écrite ou instrumentée? Au début, vous avez utilisé un mot... Après le Beatles, qui était un peu pauvre, disons.
Pas pauvre, mais...
Il a quand même trois clarinettes.
Oui, trois clarinettes,
Trois clarinettes.
Là, on est dans quelque chose d'un peu massif, on va dire, ou d'un peu...
C'est luxe, n'est-ce
pas? Oui, c'est assez luxueux.
Mais le texte, c'est quand même c'est aussi cette contradiction. Le texte est assez brutal.
Oui.
Disons, il devient de plus en plus brutal. Mais aussi, c'est un moment d'histoire pour moi, parce que là, j'étais vraiment présent. Je me rappelle encore, les Beatles, je n'ai pas encore entendu, mais... Ma sœur a vécu à Paris
dans
entre
ces années-là,
68, 70, etc., rue Cambronne, rue Vaugirard, là-bas. Et elle a acheté ce grand disque noir. Et la France, j'ai écouté tout le temps. Ça, c'était le chef-d'œuvre de ce choix pour moi, disons. Et bon, maintenant, c'est loin. Mais ça me touche quand même toujours. Ça insiste, n'est-ce pas? Et ça reste. Pour moi, c'est une icône quand même de ce style et de la chanson française. Et c'est aussi ce qui est drôle pour moi. C'était le moment... où j'ai aussi fait le premier essai de rencontrer Vlado Perlmutter pour avoir un professeur ici. Parce que j'ai étudié le piano à Karlsruhe, en Allemagne, chez moi. Et puis j'ai fait le concours de Genève, où heureusement j'ai gagné tout de suite un deuxième prix en 69. Et là, j'ai aussi commencé à écrire à monsieur maître Vlado Perlmutter, parce que j'ai toujours adoré ce pianiste, si je pourrais être l'élève pour les années qui suivent, n'est-ce pas? Alors, parce que j'ai fini mes études à Karlsruhe, mais là, quand même, j'ai toujours pensé, il faut quand même un tout petit peu de...
De travail. Avec un maître, surtout, c'est l'idée du maître et de l'élève.
Et là, c'était, je crois, 70, je suis venu après... Paris, il a toujours dit, ne venez pas au conservatoire, venez me voir régulièrement, mais sans entrer au conservatoire. Et là, j'ai fait à peu près 3 ans de voyage entre l'Allemagne et Paris pour le voir et pour faire des cours, disons, des leçons, n'est-ce pas?
Alors, écoutons Vlado Perlmutter et voyons si ce son qu'on va réentendre est bien celui dont vous vous souvenez. Christian Zacharias, nous écoutions un extrait de la Fantaisie opus 49 de Frédéric Chopin sous les doigts de Vlado Perlemutter. Vous, qu'est-ce qui vous a fasciné chez ce maître? Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher Perlemutter pour travailler votre piano?
Peut-être parce que c'était tellement simple et tellement évident comme il faisait la musique. Et moi, j'ai rencontré son art par un ami à Karlsruhe aussi qui m'a présenté un disque noir d'un club de livres, disons, Vlado Perlemutter Chopin récital. Et j'ai tout de suite acheté ce... Bon, il m'a acheté ça parce que j'étais pas membre de ce club. Et ça, c'était, je crois, presque mon premier disque de musique classique. Et Chopin, c'était pas Ravel, il était élève de Ravel, mais c'était vraiment Chopin, et d'une noblesse, et d'une simplicité, et d'une lucidité sans sentimentalité. Alors, j'ai rêvé d'entendre ça, n'est-ce pas? Et ça me rappelait un tout petit peu aussi les autres artistes piano que j'ai adorés, comme Dino Lipatti ou Clara Haskell, et maintenant c'est Radu Lupu. Alors, il y a une petite famille qui ne fait pas du chichi du tout, qui sont sérieux, mais qui savent parler, qui vous racontent la musique, qui respectent le cadre, mais quand même ont une certaine liberté pour poser les choses dans le temps. Alors, et là, je crois, j'ai choisi parce que ça m'a dit quelque chose. C'était le rêve et j'ai voulu quand même un peu apprendre certaines choses, comme un maître comme ça conseille. Et ce qui était très drôle... Finalement, on a travaillé plus sur Beethoven, 5e concerto, ou Schumann, la fantaisie, ou certaines œuvres que je m'attendais pas. Là, il était très sévère. Pas méchant, mais avec cette rigueur. Et toujours avec cette rigueur qui respecte tout et qui veut sortir les lignes et le langage musical. Et là, je crois, j'ai fait à peu près 3 ans. Et après, ensemble, on se disait, on a assez à échanger.
Ça y est, c'est bon.
C'est bon. Je crois que c'était 73, 74 que j'ai terminé mes études, pour ainsi dire.
Ça, cet enregistrement que nous écoutions datait de 1962.
Et je crois que ça pourrait être... Ça me rappelle quelque chose. Parce que j'ai plus retrouvé l'autre disque. Mais là, sur ce disque-là, il y a 4 œuvres qui étaient sur mon disque à la maison.
Alors, on va passer du piano à l'orchestre. C'est ce que vous avez fait dans votre carrière.
Thank you.
Ce premier mouvement de la troisième symphonie de Johannes Brahms, dans la version dirigée par Félix Weingartner, c'est votre choix aussi, Christian Zacharias. Qu'est-ce qui le motive?
Aussi un tout petit peu histoire, parce que mon père a encore eu les 78 tours de ce disque. Et je me rappelle, là, il y avait un moment dans le développement où il fallait tourner.
En plein milieu du premier mouvement.
Oui, oui. En plein milieu, il fallait arrêter et mettre le deuxième. Mais après, mon père a commencé à aussi faire des transferts sur bande magnétique. Alors après, il a essayé de, quand même, comme un amateur, mais très bien, d'ajuster les choses. Et moi, j'ai toujours aimé. J'ai un tout petit peu un problème avec Brahms de temps en temps, quand ça devient trop épais, trop sentimental.
Ouais, ça peut être un peu sucré.
Ou un peu... et un peu lent, et ça bouge pas. Et là... ça démarre et ça tient cette pulsation, cette énergie. C'est un homme, tout simplement, qui va dans une direction. Et même si c'est beau, il se dit pas, ah, comme c'est beau. Et le passé, c'était si beau. Et un peu les mémoires, etc. Non. On est dans le présent et c'est fort. Et bien sûr, on peut dire, ça, c'est pas ensemble. Et là, l'intonation du début. Et bien sûr, la sonorité, c'est pas ce qu'on connaît. Mais l'esprit de l'attitude présentée, Brahms, je crois, c'était toujours un exemple pour moi aussi.
Félix Weingartner. Ouais. Là, il était à la tête du London Philharmonic Orchestra et l'enregistrement date quand même de 1938-1940. Oui. Christian Zacharias, est-ce que le piano, c'est déjà un peu un orchestre symphonique? C'est ça qui vous a conduit à diriger?
En tout cas, on peut jouer tout sur le piano. Quand j'étais jeune, j'ai bien sûr acheté des partitions, je les ai mises.
Des transcriptions,
j'ai un peu fermé mes transcriptions, j'ai lu les choses. Et le piano peut rendre hommage à des grandes symphonies. Et aussi, il y a cette histoire de la musique à la maison, des pianos quatre mains, à partir de même Mozart, Haydn, il y a pratiquement tout le répertoire aussi pour quatre mains. Alors, si vous avez un ami ou une amie à la maison, de lire les symphonies ensemble, c'était aussi un très grand plaisir, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, Christian Zacharias, de nous avoir accompagnés ce matin. Alors, je rappelle qu'on peut réécouter le concert qui a été diffusé en direct jeudi soir pendant 30 jours, évidemment, sur le site de France Musique. Et puis, donc, on peut vous retrouver demain, vous donner un concert à 16h avec le concert numéro 3 que vous allez jouer et dirigé depuis le piano de Beethoven, et puis la symphonie inachevée. Et puis je préviens les familles qu'il y a un atelier appoggiature ou famille pour préparer au concert à partir de 14h30. Merci, bon concert.
Merci beaucoup.
Depuis l'année dernière, France Culture, en partenariat avec l'Orchestre National de France, a choisi de rendre public ses fictions. L'occasion pour les amateurs de beaux textes et de musique de vivre la radio différemment, en découvrant finalement comment elle se fait. Bonjour Vinciane Lemonnier.
Bonjour Dominique.
Vous nous emmenez aujourd'hui dans les coulisses de la fabrication d'un concert fiction, celle de La Guerre des Mondes, qui a été enregistrée en public lundi dernier au studio 105 de la Maison de la Radio et auquel des musiciens de l'Orchestre National de France ont été associés.
Oui, alors La Guerre des Mondes, c'est ce mythe de la radio qu'a créé Orson Welles en 1938. En fait, chaque semaine sur la CBS, il réalise une heure de production dramatique diffusée en direct, avec une troupe de comédiens et de bruiteurs, et il fait croire à des milliers d'auditeurs que le pays est la cible d'une attaque extraterrestre. La Guerre des Mondes suscite alors une certaine panique aux États-Unis et marque surtout profondément l'histoire de la radio. Et c'est donc Alexandre Planck, réalisateur à France Culture, qui a repris le scénario et qui offre ici une version plus intime et musicale, en associant à son projet le compositeur Quentin Sirjac et le Quatuor Ellipse, avec Lyodoko Kaneko, Yugen Ko, Florent Carrière et Alan Sweeton, membres de l'orchestre National de France. Seulement 3 jours de répétition avec les comédiens et 2 jours avec le quatuor. Les timings sont courts et l'ambiance est au travail intense en studio. Et dans la cabine technique, on fait les réglages de la scène du bombardier.
800 mètres, 600 mètres, 400 mètres, 200 mètres. Et voilà, il vient vers nous. À droite, à l'éclair vert, il nous arrose de flammes. 200 pieds, nous sommes touchés. 150 pieds. Les commandes ne répondent plus. plus moyen de lâcher les bombes. Nous allons piquer sur eux. Je répète, nous allons piquer sur eux. Nous allons piquer sur eux.
Alors Alexandre Plante, vous êtes réalisateur de cette production La Guerre des Mondes. Comment ça vous est venu cette envie ?
L'idée était de faire à la fois une émission de radio et une émission de radio qu'on puisse présenter en public. Ce qui n'est pas exactement la même chose pour nous, parce que là par exemple ce matin on calait des lumières, ce qu'on ne fait jamais dans le cadre d'une émission de radio. Donc on est obligé de réfléchir forcément à une, c'est pas une mise en scène, on peut dire une mise en espace. Vous voyez, des musiciens, du rapport qu'ils entretiennent avec les comédiens. C'est pas une émission, il y a très peu de, avant la diffusion il y a un peu de montage, mais il y en a extrêmement peu. Il faut que dans l'heure d'antenne qu'on va avoir, il faut que cette heure d'antenne soit l'heure qu'on va avoir ici face au public.
Et alors là, il y a une particularité apparemment, c'est que le public va aussi avoir des casques, donc entendre en fait, comme s'il était de l'autre côté de la radio, ce qui se passe.
Ouais, c'est moi qui ai demandé ça, parce que je pensais qu'on pouvait avoir, avec les casques, on a un son qui est beaucoup plus juste, c'est-à-dire qu'on n'a pas, déjà on n'a pas de problème de diffusion, c'est-à-dire qu'on peut jouer des choses très petites et elles n'ont pas besoin d'être reprises dans des enceintes. Là, on peut vraiment mettre et les comédiens et les musiciens dans le creux de l'oreille des auditeurs et des spectateurs qui vont être avec des casques. Donc on a comme ça la possibilité d'être sur des choses extrêmement sensibles, extrêmement intimes, et ça nous permet une palette de jeux beaucoup plus vaste.
L'idée, c'était aussi de retravailler sur justement aussi ce pouvoir un peu évocateur de la radio. Bon, on sait toute la légende qui a suivi La Guerre des Mondes, mais de retravailler justement ça aussi de nos jours.
Oui, alors ce qui est très compliqué aujourd'hui, ce qui fait une énorme différence avec l'époque de Wells, c'est qu'aujourd'hui plus personne ne marcherait. Quand on dit les Martiens arrivent, plus personne n'y croit. Donc nous, en travaillant sur le texte, on s'est quand même rapidement dit que c'est un texte qui est un peu plus profond qu'il en a l'air. C'est pas juste une attaque extraterrestre, c'est pas juste un fake, une fausse émission de radio, un gag, c'est pas seulement potache. On a quand même toute une partie du texte qui parle de la fragilité de l'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens sont attaqués et on voit le dénuement de l'humain face à ça. On voit que les gens ne savent pas comment réagir, on voit que les gens ne savent plus comment s'entendre, qui ne savent plus où aller, qui sont complètement perdus, qui s'éparpillent partout aux États-Unis parce qu'ils n'ont plus aucun point de repère.
Comment est-ce qu'on fait quand on retravaille sur La Guerre des Mondes, sur cette production radiophonique? On réécoute toutes les archives, on va chercher justement des indices dans les archives ou on s'en éloigne? Comment est-ce que vous avez fait?
On a beaucoup écouté l'émission, mais on a en même temps regardé tout ce qui s'était fait depuis, parce qu'il y a eu deux films sur La Guerre des Mondes. Donc on a travaillé avec ça, on a regardé tout un tas de films catastrophes pour voir ce que ça nous racontait, pour voir où est-ce que ça nous parlait, pour voir quels étaient les enjeux de ces films-là. Et à partir de ça, on s'est posé avec l'équipe tout un tas de questions. Et c'est par exemple à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, ok, c'est vraiment du point de vue de l'individu et de la destruction, de l'annihilation, la mise à mort de l'individu par des extraterrestres qu'on va travailler. Bon. Ouais, Bertrand, il va être par là, il va arriver. Alors, on va attaquer lentement. Je vous présente. Alors, bon, les prénoms, vous allez oublier, il va y avoir des mélanges. Yudo, Jungen, Alan, Florent.
Bravo.
Olivier, qui s'appelle Olivier, on va garder ça. Olivier est censé être à New York dans le studio de la CBS et ils font un duplex avec l'hôtel Crillon à Paris, dans lequel vous êtes un quatuor invité à une soirée caritative. Pour la paix et les réfugiés.
Alors Lyudo, vous êtes violoniste, vous faites partie du Quatuor Ellipse et aussi de l'Orchestre National de France. Et là, avec le Quatuor, vous participez à la production de La Guerre des Mondes. C'est particulier du coup que de participer à une fiction radiophonique en tant que musicien?
Alors particulier, oui. On est habitué à l'orchestre. On a participé à plusieurs projets déjà pour les fictions. Donc là, on se retrouve en quatuor. C'est toujours c'est un plaisir, surtout de profiter de tous les atouts de la radio. Ce qui nous plaît beaucoup, nous, un quatuor classique, on va dire, c'est justement la part d'improvisation, parce que voilà, il faut s'adapter au texte et tout n'est pas écrit. Donc c'est un challenge pour nous.
Tout n'est pas écrit.
Voilà, il y a une base écrite. Puis après, forcément, les aléas du texte. Fait que voilà, il faut qu'on s'adapte et c'est très très intéressant et très excitant.
Et quelle musique alors vous jouez là?
Alors là, on joue du Albéniz, le tango. On joue aussi du Debussy et puis après la musique écrite par Quentin Sirjac, qui a écrit spécialement pour cette fiction.
Et alors vos sonorités de cordes, elles sont aussi mêlées à de la musique électronique?
Voilà, c'est mêlé à la musique électronique, percussion, Non, ça fait un mélange intéressant.
C'est vrai, c'est ça. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Il faut que ce soit... Ouais, tu peux partir. Vraiment, le penser large, en fait. C'est le... Presque à la mesure, hein. Eh ben, on va lui demander moins de reverb. JB, est-ce qu'on peut avoir moins de reverb pour le quatuor dans leur casque ? Que pour eux ?
Quentin Sirjac, vous êtes le compositeur de cette pièce. En quoi ça a consisté en fait votre travail sur cette production ?
Ben, il fallait suivre un petit peu l'intrigue et cette espèce de chose un peu spectaculaire des Martiens, enfin moi j'ai voulu porter un point de vue plus contemporain musicalement que la musique de l'époque qui était du coup des années 30, du coup d'y insérer du free jazz, des musiques contemporaines plus post deuxième guerre si je puis dire, et des choses de bruitage, d'un peu de noise, voilà, donc quelque chose d'assez mixte dans le matériel entre une écriture classique et un quatuor à cordes, et en même temps des éléments comme le saxophone, l'électronique, le bruitage, moi piano, percussion, qui du coup fassent une espèce de transformation du matériel allant d'un point de départ de la pièce radiophonique qui est assez fidèle et classique, et qui mute en même temps que les Martiens arrivent, la musique se transforme et devient elle aussi plus étrange et bizarre et contemporain, enfin, avec notre monde, les choses qui sont arrivées depuis les années 30 à maintenant en musique et dans la vie font qu'on porte un nouveau regard sur ce type d'idée des Martiens et de l'envahisseur.
Voilà. Donc du coup, vous avez travaillé comment ? Vous êtes parti du scénario, vraiment ?
Oui, toujours. On part toujours du scénario et puis on a réfléchi avec Alexandre, on a fait des rendez-vous de travail et Anthony qui fait l'électronique, et voilà, on a un petit peu séquencé le travail, le scénario, en imaginant quels étaient vraiment les moments charismatiques à mettre en musique d'une façon classique, très écrite par exemple avec le quatuor, et puis d'autres moments où ce serait plus improvisé ou plus paysage sonore comme une forêt, un laboratoire, comment sonoriser tout ça avec les instruments ou avec le bruitage. Donc on a découpé et ensuite du coup ça nous a créé une espèce de grande forme et après il fallait remplir, composer chaque morceau pour chaque passage.
Je m'appelle Bertrand Amiel, je suis, artiste bruiteur depuis une trentaine d'années. J'accompagne cette fabuleuse histoire d'Orson Welles qui a fait croire au monde entier, en tout cas à tout New York, que les extraterrestres débarquaient sur Terre. C'était le début de la radio, il n'y avait pas autant d'émissions comme ça qui racontaient des histoires, comme des fictions dramatiques. Mais se dire qu'il y a des gens qui aient eu peur, qui aient cru tellement à cette histoire, qui sont suicidés, en entendant, par exemple... une soucoupe volante s'ouvrir, et de savoir que cette soucoupe volante, quand elle s'ouvre, c'est le bouchon, le couvercle d'un bocal à cornichons que Orson Welles a fait ouvrir dans un toilette. Voilà, pour qu'il y ait la résonance, une réverb, donc voilà quoi.
Alors ici, il y a votre table avec tous vos gadgets, tous vos instruments. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut faire un petit tour ?
Il y a... Si j'arrive à retrouver, ça doit être là-dedans. Même quand il cherche, il continue à faire du bruit, c'est quand même énorme. C'est aussi bête que ça. Ça, c'est une tôle. On peut faire l'orage. Voilà. Si je dis que c'est de l'orage, les gens vont dire oui, c'est de l'orage. Mais si je dis que c'est un coup de canon au loin, ça peut être un coup de canon au loin.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va quand même dire, il y a un balai ici, des morceaux, des vieilles bandes, des talkie-walkie, des vieilles boîtes.
Ça, c'est quoi, par exemple ?
Le feu.
Ah, voilà, le feu.
Alors qu'en fait, c'est un balai. Et alors, est-ce qu'à un moment, vous vous lancez dans une soucoupe volante ?
Bah, soucoupe volante, c'est pareil. On peut, la soucoupe volante, personne On n'a jamais vu de soucoupe volante. Par contre, au cinéma, on s'est mis à faire des sons et donc tout le monde y croit. Maintenant, si je fais... Forcément, les gens, hop, j'ai pas besoin de dire c'est une soucoupe volante, ils vont y croire.
Et alors là, vous avez quoi dans la main ?
C'est j'ai rien.
Du plexiglas ?
Voilà, du plexiglas, c'est accueil invité.
Accueil invité, donc voilà, ça c'est quelque chose que vous êtes allé shipper à l'entrée de Radio France.
Oui, non, c'est des... Ouais, voilà.
Le monstre, les monstres, contrôlent maintenant la section moyenne du New Jersey et ont pratiquement coupé en deux l'État en son centre. Les lignes de communication sont rompues entre la Pennsylvanie et l'océan Atlantique. Les voies ferrées détruites, le service entre New York et Philadelphie interrompu. Les autoroutes du nord, du sud, de l'ouest sont bouchées en raison de l'exceptionnelle circulation.
Alors Olivier Broche, vous êtes comédien.
Oui.
Et puis vous jouez quand même le rôle phare ici dans La Guerre des Mondes. Enfin, vous êtes l'homme de la radio en fait.
On va dire que c'est un rôle central du fait que c'est le présentateur de CBS, donc qui est le lien entre les différents correspondants qui interviennent pendant cette émission de Guerre des Mondes, entre l'hôtel Crillon à Paris et le terrain à Grover's Mills, où semble-t-il un météorite, et bientôt on va s'apercevoir une soucoupe volante ou quelque chose avoisinant aurait atterri pour le pire de l'humanité probablement. Voilà.
Et donc vous suivez vraiment le script original, comment ça se passe?
Oui, on suit le script original, mais on a un petit peu mis au goût du jour, c'est-à-dire que pour que ce soit plus vivant, on ne s'exprime pas aujourd'hui à la radio comme on s'exprimait autrefois. Peut-être que c'est à regretter d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, on s'est amusé à donner un petit ton un peu plus familier qu'il n'était, un peu moins convenu, un peu moins coincé que ça n'était autrefois. Et donc moi, j'interviens de façon assez détendue avec mes différents intervenants.
Et puis, c'est toujours agréable de faire partie un peu d'un mythe de la radio, parce que La Guerre des Mondes, c'est quand même une sacrée légende.
Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, c'est une légende. Et Orson Welles a dû largement y contribuer, hein, à rendre beaucoup plus spectaculaire l'impact de cette émission qu'elle n'a été, semble-t-il, réellement. Hein. Ça n'a pas fait les dégâts qu'il a prétendu, ou qu'on a prétendu, ou qu'il a laissé prétendre qu'il s'était produit.
Alexandre Planck, réalisateur.
On change pas l'époque. C'est-à-dire qu'on est encore aux États-Unis, fin des années 30, mais on essaye de se dire où est-ce que le texte nous parlerait aujourd'hui. Mm-hmm. Et je crois que c'est ça qui nous motive et qui nous travaille nous-mêmes beaucoup avec l'équipe de comédiens et de musiciens. On se dit où est-ce que tout ça nous touche, nous ? Où est-ce que tout ça nous angoisse, nous ? Où est-ce que cette peur de l'étranger modifie nos comportements ? Et donc on avance vraiment comme ça. On essaye toujours d'avoir une base dramaturgique assez solide pour savoir ensemble ce qu'on essaye de raconter, ce sur quoi on travaille. Parce que sinon ça ne marche pas, je pense, de faire des productions aussi rapidement avec autant de monde. Si on n'arrive pas à entraîner tout le monde dans la même direction, en disant à tout le monde ce qu'on cherche à raconter, qu'on parle de fragilité de l'humanité ou de peur de l'étranger ou la fragilité des hommes, tout simplement, on a besoin de le raconter ensemble. Et le compositeur a besoin d'avoir tous ces éléments en tête quand il compose. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de discussions avant la composition pour se dire voilà, c'est là-dessus qu'on veut tabler. Donc on pourrait partir dans une toute autre direction. On pourrait essayer de recréer ce qu'avait fait Orson Welles en modifiant légèrement quelques paramètres du texte pour faire croire que tout se passe aujourd'hui. On a décidé de partir sur autre chose.
Recevez-vous. Répondez s'il vous plaît. Où êtes-vous, 8X3R ? Qu'est-ce qui se passe ? Où êtes-vous ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ?
Bientôt, micro rouge.
New York. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ?
La Guerre des Mondes sera donc diffusée le 31 octobre de 20h à 21h sur France Culture et le prochain concert fiction aura lieu le 28 novembre à 19h au studio 104 avec l'Orchestre National de France autour de l'œuvre de Joseph Conrad au cœur des ténèbres.
Mais pour le moment, nous restons avec le quatuor Ellipse et nous écoutons la fugue de l'Adagio et fugue Köchel 546 de Mozart, enregistrée au Festival de Radio France à Montpellier le 24 juillet dernier.
Thank you.
La fugue de l'Adagio et fugue Köchel 546 de Mozart par le Quatuor Ellipse enregistré au Festival de Radio France et Montpellier l'été dernier. À bientôt, Vinciane Lomonier.
À bientôt, Dominique.
Et voici venu le moment de la chronique de la Maison Ronde avec vous, Marie Fauché. Bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Mardi dernier, il pleuvait au 12 de la rue Saint-Louis en Lille, lorsqu'à 11h du matin, une plaque a enfin été dévoilée à la mémoire d'Henri Dutilleux. L'erreur de la ville de Paris quant au lien supposé du compositeur avec le régime de Vichy a ainsi été levée. Aussi, rappelons-le une nouvelle fois, ça n'est jamais trop. Henri Dutilleux était un humaniste et loin d'avoir collaboré, il fut un résistant engagé.
C'est quand parfois, même aberrant. C'est quand même aberrant d'être obligé de le prouver, quoi.
Ouais, ça tourne pas rond quand même parfois. Voici un extrait de The Shadows of Time, en partie dédié à Anne Frank, et je cite « À tous les enfants du monde innocents ». The Shadows of Time, les ombres du temps. L'une des dernières œuvres d'Henri Dutilleux, interprétée ici par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la baguette de son tout nouveau directeur musical, Mico Franck.
Et c'est un extrait du premier concert de la saison de l'Orchestre Philharmonique, un concert qui a eu lieu vendredi 18 septembre dernier.
Oui, la saison des orchestres de la Maison de la Radio s'ouvre en saluant ce grand compositeur disparu en 2013 à l'âge de 97 ans. La semaine prochaine, c'est le tour de l'Orchestre National avec Daniel Egatti. Ils donneront la première symphonie d'Henri Dutilleux à Amiens le 30 septembre et à Radio France le 1er octobre. Avec d'autant plus d'émotion, on espère que ce même orchestre en fut le créateur en 1951. Et 1951, c'est aussi la période d'un questionnement musical vertigineux, énoncé notamment par Pierre Boulez et Karl-Heinz Stockhausen, un questionnement qui cherche des réponses radicales à l'énigme posée par les horreurs du génocide et de la guerre. Les réponses d'Henri Dutilleux, elles, ne révèlent pas moins ses inquiétudes, mais il fait le choix de les exprimer sans rupture. On pourrait dire que sa musique utilise encore la métaphore, là où, à Darmstadt, on s'attaque au réel pour en trouver l'os. Le tourment contenu dans la musique de Dutilleux d'alors s'étire de la fureur à l'abandon, un abandon désolé, mais d'une extrême pudeur. Thank you.
L'intermezzo de la symphonie numéro 1 d'Henri Dutilleux par l'Orchestre National de France, dirigé par Roger Desormières en 1951, lors de la création de l'œuvre.
Et cela vous a peut-être rappelé la blancheur pieuse et parfois rude de la Palme d'Or 1987. Et oui, puisque c'est avec cet intermezzo que Maurice Pialat habille son chef-d'œuvre Sous le soleil de Satan. Au regard de sa longue vie, Henri Dutilleux n'a pas énormément composé. Il écrivait lentement, n'était pas satisfait, il gommait, il reprenait, envahi par trop d'idées peut-être. Il faisait sienne cette phrase de Debussy que je trouve géniale, « Le tourment délicieux de l'idée à choisir entre toutes ». Je parlais de pudeur tout à l'heure. C'est sans doute un terme qui convient particulièrement bien à la personnalité d'Henri Dutilleux. C'est un homme discret, élégant, raffiné, à qui la musique a donné une voix pour se faire entendre. Alors, c'est pure interprétation, mais j'utiliserai volontiers le mot de pudeur pour qualifier le mouvement lent du concerto pour violoncelle « Tout un monde lointain ». En fait, c'est plutôt comme un mouvement retenu. Le violoncelle reste contenu dans son aigu, cherchant à se déployer progressivement, reprenant son souffle, renouvelant la tentative jusqu'à dévoiler la phrase dans son entier.
Un extrait du deuxième mouvement, intitulé « Regard », du concerto pour violoncelle d'Henri Dutilleux, « Tout un monde lointain », interprété par Jean-Guillaume Queyras, l'Orchestre National de France et Juanjo Mena.
Et on pourra entendre ce concerto en janvier prochain à la Maison de la Radio par le violoncelliste Gauthier Capuçon et l'Orchestre National.
Et d'autres rendez-vous encore avec Henri Dutilleux sont à venir, donc ce sera en janvier 2016, ouais. Période à laquelle nous célébrerons réellement le centenaire de sa naissance. Vous pourrez d'ailleurs découvrir ici même, à la Maison de la Radio, une exposition qui lui sera dédiée.
Oui, une exposition et un concert monographique donné par l'Orchestre Philharmonique au programme, entre autres, les géniales métaboles.
Thank you. Torpide, extrait des Métaboles d'Henri Dutilleux, interprété en concert par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Yuka Pekka Saraste.
Merci Marie Fauché. Alors, rappelez-nous, où est-ce qu'on peut aller voir la plaque d'Henri Dutilleux?
Eh bien, sur l'île Saint-Louis, au 12 rue Saint-Louis en Lille.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Et bonjour Jean-Yves Pat.
Et bonjour Dominique, et comment ça va depuis la semaine dernière?
Mais écoutez, très bien, et vous, bon pied, bon oeil?
Eh ben, ça tombe bien, alors j'ai réglé mon poste sur la fréquence radio PTT, figurez-vous, j'y suis resté coincé.
Radio PTT, le retour alors de ce
oui,
matin.
Et elle est contente. Contrairement à d'autres légendes cinématographiques.
Oui, alors, parce qu'est-ce qui caractérise cette radio PTT?
Eh bien,
dont
radio
PTT
est la première à avoir fait un programme de musique pure, de musique qui ne soit pas que de la variété, que de la musique légère, comme on l'a pu entendre pour Radio Tour Eiffel, etc. Mais qui s'est intéressé à l'opérette, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, l'opérette légère, l'opérette à la mode, aussi à l'opérette dite de bonne qualité, c'est un peu ridicule de dire ça, mais enfin, bon, vous savez, il y a des opérettes plus ou moins faciles, et à l'opéra aussi. Alors, c'est un peu cette deuxième tendance que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, vous prenez une feuille, un crayon.
Mais oui, professeur, et alors nous commençons par...
Et alors, nous commençons par Payas, dont le vrai nom n'est pas Payas, puisque c'est Pagliacci, normalement, de Léon Cavallo. Mais, vous savez, on chantait tout en français à l'époque. Bon, quand c'est Georges Till, on pardonne.
Ah oh oui, ça, on pardonne. Bouleversant, Georges Till.
Magnifique. On disait de lui qu'il était l'héritier des plus grandes voix du 19e, dont Adolphe Nourrit. Mmh. Je crois qu'on n'a pas besoin vraiment d'en être persuadé. Le disque à lui seul le dit, le clame.
Et puis, il y a ce tragédien qu'il est en même temps que ce chanteur.
Une grande présence, ça, il le doit à Fernando De Luca, qui a été son maître italien.
Disque Columbia, Paris, 1927.
Alors, nous allons vivre un grand contraste maintenant. En 1931, vous vous souvenez, je vous ai dit que Radio PTT n'allait pas tarder à se lancer dans la télévision, la radiovision. Eh bien, il s'intéresse évidemment à la production cinématographique. il y a un lien évident qui se crée. Et vous savez, à l'époque, il y a des chansons dans les films et on passe les chansons à la radio. Et bien là, c'est tout à fait l'inverse. On a fait un film à partir de l'opéra de Katsu de Kurt Weill et c'est Florel qui a enregistré les airs principaux du film avec une traduction française d'André Maupré. Florel n'est pas une grande chanteuse d'opéra.
Vous parlez d'elle comme si on la connaissait tous.
Oui, oui. Quand vous entendrez sa voix, vous la connaissez en fait. On a son oreille, on a son timbre dans l'oreille, pardon, sans savoir exactement qui c'est. Donc c'est pas une grande artiste d'opéra, c'est plutôt une artiste de variété qui s'essaye à ce genre mixte qui est l'opéra de Katsu, enfin toute la musique de Kurt Weill. Et vous verrez, même en français, c'est extrêmement convaincant.
Oui, c'est moi qui lave tous les verres et les plats, on m'appelle une Marie, couche-toi là. Quand on me donne un pénis, faut encore que je dise merci. Me v'là en habit loqueux, au fond de cet hôtel miteux. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Mais un soir, un beau soir, grand branle-bas, les gens courent tous à la rive, disant, voyez qui arrive. Et moi, je sourirai pour la première fois. On dira, tiens, voilà que tu souris, toi. Un navire de haut bord, sans canon au sabot, entrera dans le port. Moi toujours, je laverai les verres et les plats, je serai toujours une Marie, couche-toi là. Quand on me donnera un penny, toujours je dirai merci, je garderai mes habits loqueteux au fond de cet hôtel miteux. Et demain, demain comme aujourd'hui, vous ne saurez toujours pas qui je suis. Mais un soir, ce beau soir pour qui je vis, voilà que les sans canon s'éveilleront et sonneront. Pour la première fois, j'éclaterai de rire. Quoi, méchante, t'as le cœur à rire. Le navire de haut bord, son canon au sabot, bombardera le port. Alors viendront à terre les matelots plus de sang, ils marqueront d'une croix de sang chaque maison, chaque porte, et c'est devant moi qu'on apporte, enchaînés en pleurant, mutilés et saigneux, vos pareils, tous vos pareils, beaux messieurs. Vos pareils, tous vos pareils, beaux messieurs. Alors paraîtra celui que j'attends, il me dira, qui veux-tu de tous ces gens que je tue? Et moi, je répondrai doucement, tout. À chaque tête qui tombera, je dirai, hop là. Et le navire de haut bord, loin de la ville où tout sera monde, m'emportera vers la vie.
Je trouve ça splendide.
C'est splendide.
Oh oui, c'est vraiment splendide. Ouais. Une capacité à changer de voix, cette Florel.
Oui, à ne pas faire rire.
Non,
parce que c'est un texte purement dramatique et sanglant.
Et surtout, le texte français est très beau.
Le texte est très beau. André Maupré a fait une traduction qui est à la fois fidèle au texte allemand et en même temps introduit de nouvelles distances. Enfin bon, c'est toujours le travail du poète, évidemment, qui l'emporte. Mais je tiens à souligner la direction de Jean Lenoir aussi, qui est un grand artiste de variété, normalement, mais qui là est impeccable dans Kurt Weill, qui, vous le savez, quelques années après, sera déclaré art dégénéré.
Disque Polydor, Paris 1931, une belle époque.
Une belle époque. Alors, on va continuer avec les vedettes, la vedette incontestée, les vedettes incontestées même de ces années-là. Je parlais autour d'Yvonne Printemps, de Sacha Guitry et de Pierre Fresnay, qui vont se disputer le cœur de la belle Yvonne. Alors, je vous propose évidemment le célébrissime air de l'amour masqué, cette opérette écrite très tardivement par André Messager et qui est comme un dernier bouquet dans la vie de l'artiste. Et puis, peut-être on va enchaîner directement avec les trois valses d'Oscar Strauss avec Pierre Fresnay qui commence, qui introduit cette chanteuse à la voix si suave et si envoûtante, peut-être un tout petit peu démodée, mais en même temps tellement charmante.
Fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est belle, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par moi, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois, et ma foi, il me croit tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser, deux. Un seul amant, c'est ennuyeux, c'est monotone et soupçonneux, tandis que deux, c'est vraiment mieux. Mon Dieu, que les autres sont bêtes, on les ferait marcher sur la tête. Facilement, je crois, si par malheur il n'avait pas à cet endroit précis des ramures de bois, il leur faut un beau front ombragé.
D'avoir l'air heureux.
Vous donnez rudement bien le champ.
Je suis comédienne. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi, sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans la dignité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'antiquineuse.
dis pas ce que l'on dit. Au cinéma, quelle est puissance, être soi-même, c'est interdit. Pour se donner de l'importance, il faut placer sa réussite. Sur mon visage, je me compose un maquillage dur et moqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon sang. Ce n'est rien que pour l'apparence, qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas.
Oh, la jolie voix d'Yvonne Printemps.
La jolie voix en 1929, puis en 1937. Un disque un petit peu usé. Mais j'ai tenu à le passer quand même, parce qu'il m'a été confié par Dominique, la fille de Paul Demel, à qui toute cette série appartenait. Et c'est assez amusant de voir qu'il était certainement un fervent auditeur de Radio PTT.
Puisqu'il écoutait aussi le disque de façon régulière.
Et voilà.
Merci beaucoup, Jean-Yves Pat.
À la semaine prochaine.
Revenez quand vous voulez.
Et n'oubliez pas, je ne suis pas ce que l'on pense, et vous n'êtes pas ce que l'on dit.
Et voici venu le moment de la séquence Parlez-moi de musique, où nous lisons un souvenir envoyé par l'un d'entre vous. Ce matin, il s'agit du souvenir d'Albert René Gilmet. Cinquante années de bonheur avec ma cigarette, me disais-tu. Les enjôleurs et mortels petits cylindres de tabac blond, si présents déjà en 1960 à l'heure de nos 20 ans dans les Aurès, alors que nous effectuions d'interminables parties de poker, auront-tu raison de toi. Tu avais un geste particulier, peut-être étudié, façon Humphrey Bogart, en les allumant avec ton Zippo. Tu étais d'ailleurs fan de cet acteur qui devait, pour toi, incarner à lui seul l'Amérique des années 50. Tu soignais ta personne, ton allure, tu ne portais que des vêtements « made in USA » achetés aux puces à Saint-Ouen. Tu en possédais des valises, et à cette époque, chemises, chemisettes, pantalons, ceintures et chaussures, qui présentées à l'étal, étaient de grande qualité, vendues à l'état neuf. Tu m'en avais d'ailleurs donné afin d'améliorer mon allure dite de paysan. La terre, sabots pleins de paille, m'appelais-tu affectueusement. Tu n'écoutais pas beaucoup la musique classique, qu'à l'inverse, j'appréciais beaucoup. Celle-ci m'a toujours accompagnée partout. Par contre, tu adorais le jazz des années 50. En grand connaisseur, tu étais déterminé à me le faire découvrir. Tu as fait montre d'une grande patience pour me l'apprendre, me l'expliquer dans le détail, tout en me le faisant entendre. Adoptant un air docte, tu disais parfois lors d'une improvisation « c'est cérébral ». Au fil des jours, tu as fait surgir tes amis musiciens de ta modeste discothèque, contenue dans une de tes valises. Comme le leader d'un groupe s'adressant à son public avant le concert, tu me les as présentés, ils étaient nombreux. Pour m'amener progressivement vers les différentes sphères du jazz, celles que tu nommais notamment cérébrales, malin, tu as placé en tête de liste le piano d'Errol Garner, puis le vibraphone de Lionel Hampton, qui me séduisirent tous les deux immédiatement. Le sax ténor Stan Getz, le trompette Dizzy Gillespie, le sax alto Sonny Stitt, mais aussi Miles Davis, Charlie Parker et bien d'autres vinrent ensuite. Je ne peux pas tous les nommer. Ainsi la jolie Ella Fitzgerald, l'infortunée Billie Holiday et la tendre Sarah Vaughan ont souvent fait entendre leur superbe voix devant le magnifique spectacle qu'offre la chaîne du massif du Chélia aux crêtes encore enneigées. L'éloignement lié à un isolement relatif accroît la nostalgie. Celle-ci a imprimé à jamais son empreinte sur ces moments privilégiés. Aussi, j'entends encore Ella chanter « Summertime », ce doux cri qui me transportait en pensée au-delà des mers. Tu me faisais cadeau d'un superbe micro-sillon 33 tours, Lionel Hampton à l'Olympia en 1957. Je suis charmée, emballée même, par le vibraphone qui décoche ses notes légères et cristallines de « Memories of You », interprété et enregistré dans le plus grand silence, mais aussi de Paulette Boogie, qui au contraire enflamme l'assistance de la grande salle de l'Olympia. Tu ajoutais qu'après le concert enregistré en direct et auquel tu assistais, tu avais tenté de faire du charme à la jeune présentatrice qui annonçait en début de concert d'une voix forte, un peu criarde, « Lionel Hampton !» Tu m'avais avoué, reprenant les termes que tu avais utilisés, qu'elle t'avait gentiment renvoyé de suite jouer avec les enfants de ta cour. Depuis ces moments ici évoqués et jusqu'alors, mon cher Claude, le jazz et la musique dite classique ont pris une part égale dans ma vie. Merci à Albert-René Gilmet qui nous a envoyé le souvenir de ce matin que nous avons illustré avec, bien sûr, Memories of You de Lionel Hampton. Je vous rappelle que ce sont vos souvenirs, vos anecdotes, vos histoires qui nourrissent cette rubrique. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi votre prose et je me ferai un plaisir de la lire à l'antenne. Toutes les semaines, nous retrouvons donc Sophie Janin, chef du chœur et de la maîtrise de Radio France, qui répond aux questions que l'on peut se poser autour de la pratique chorale. Sophie Janin, bonjour.
Bonjour Dominique.
Nous en sommes à notre quatrième rendez-vous dans Questions de chœur autour des pratiques vocales de la maîtrise et du chœur de Radio France que vous dirigez, Sophie. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous répondiez à une question qui me semble intéressante pour beaucoup de nos auditeurs, qu'ils soient chefs de chœur, qu'ils dirigent des festivals ou qu'ils s'occupent de groupes d'enfants à l'école ou ailleurs. Dans vos programmes, quand vous les construisez, qu'est-ce que vous privilégiez ? Est-ce que vous privilégiez un florilège de composition ou est-ce qu'il vous semble important que les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, travaillent des œuvres globales ? Je pense à un opéra, mais ça peut être toute autre forme d'œuvre.
Cette question-là fait partie de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire de construire des programmes. Je le fais nuit et jour. J'imagine des concerts qui n'ont pas encore eu lieu et je crois que dans ma tête, j'ai des programmations pour des années à venir. Justement, c'est la flexibilité qui me plaît. C'est difficile de programmer des saisons pour le chœur et la maîtrise. Et je dis difficile parce que nous abordons souvent des œuvres très courtes en durée. Les orchestres, ma foi, c'est très riche comme palette, mais ils ont quand même 3 voire 4 pièces maximum dans un concert. Nous tournons autour de 10 à 20 pièces par concert. Donc il faut vraiment réfléchir à comment on programme. Pour moi, il n'y a pas une réponse exacte. Justement, c'est le contraste et la différence qui, pour moi, peut remuer les choses et innover les choses. Et je trouve parfois un petit peu ennuyeux si on est plongé dans une atmosphère où on va entendre que la musique du 19e d'une certaine région, d'un certain pays pendant tout un concert. Je suis assez pour le contraste. Si le contraste a toujours un but musical et artistique. C'est-à-dire que, par exemple, je mets souvent en relief des compositeurs, on va dire, modernes de toutes les époques. C'est-à-dire que je trouve que Monteverdi se marie extrêmement bien avec des compositeurs du XXe siècle. Et Mozart et Poulenc, ça fait un très beau mélange aussi. Donc il faut chercher des musiques qui vont ensemble, qui peuvent être parfois innovantes, qui peuvent parfois être le reflet des pièces des unes des autres. Donc je voyage sans aucun complexe, je dois dire, dans les périodes, dans les temps et dans les pays aussi, à travers des pays. Et après, je pense qu'on peut aussi parfois se baser sur des thématiques, parfois sur un auteur qui est mis en musique différemment, sur les œuvres d'un seul compositeur. Et puis, je trouve aussi important dans la saison de toujours donner aussi les grandes œuvres, c'est-à-dire que là, vous avez parlé tout à l'heure des longues durées. On a aussi des grandes pièces de répertoire, que ça soit des grands oratorios, que ça soit des opéras qu'on peut donner en version concert, les cantates et les opéras pour enfants. Je pense qu'il faut un tout et je pense que pour avoir vraiment une proposition riche de la saison, comme on se doit ici dans cette maison, on doit tout proposer. Le monde est vraiment sans limite dans cette programmation et c'est ça qui me plaît. Thank you.
un extrait de L'usage du monde d'Oscar Strasnoy donné lors du Festival Présence en 2012. La maîtrise de Radio France et l'Orchestre Philharmonique étaient dirigés par Sophie Janin. Aujourd'hui encore, Fabrication Maison vous invite à l'un des concerts proposés ici à Radio France. Il s'agit du concert que donnera l'Orchestre National de France, jeudi 1er octobre, sous la direction de Daniele Gatti. Au programme Mozart, Strauss avec son concerto pour hautbois que jouera en soliste Nora Sismondi, et enfin la première symphonie d'Henri Dutilleux. C'est donc jeudi 1er octobre à 20h à l'auditorium de la Maison de la Radio, et pour ceux qui ne pourraient pas venir, c'est en direct sur France Musique.
Thank you.
Et puis aujourd'hui, c'est une date anniversaire, celle de la création, le 26 septembre 1965, à l'ORTF, de Laborantus 2, une commande de l'ORTF à Luciano Berio. Nous en reparlerons bien sûr dans Fabrication Maison. Une émission réalisée aujourd'hui par Cyrielle Weber, avec la complicité de Philippe Mercher et de Pauline Boisaubert. À très vite.